En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
Nous sommes le 7 novembre 2023 et je reçois Nadine Renaud-Tinker, présidente de la RBC au Québec. Figure bien connue du milieu des affaires, Nadine a accédé au plus haut poste québécois de la plus grande banque canadienne dans sa jeune quarantaine. De passage à Brave, nous avons discuté de ce qui l'a mené là. Et ça a donné un voyage passionnant au cœur d'une carrière hors norme. Bonne écoute!
Nadine, oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être venue à Brave, de te plier à l'exercice parce que, tu sais, j'ai lu sur toi, ça fait des semaines que je pense à toi, que je lis sur ton histoire, j'écoute des entrevues que tu as données. Oui. Je doutais que tu étais une introvertie,
oui.
Puis j'ai eu la confirmation. Et là, je me dis, mon Dieu, elle est présidente de RBC au Québec. Elle a toutes sortes d'activités sociales, elle doit prendre parole, elle accepte de venir à Brave. Comment vis-tu ça en tant qu'introvertie?
Quelle question, si je pourrais parler jusqu'à demain avec ça, là. Je te dirais, bien, premièrement, merci de m'accueillir. Ça fait quelques années qu'on en parle et là, le temps est venu, alors je suis très contente d'être ici. Puis, je disais à certaines d'entre vous, c'est très facile de parler de la business, c'est une passion, nous, gens, d'ailleurs, on a plusieurs collègues qui sont ici dans la salle également aussi, très passionnés de nos clients et nos gens qui font une grande différence tous les jours pour la business, pour RBC. Alors, pour moi, c'est très facile de faire ça, mais un plus gros défi, de parler personnellement. Là. T'sais, j'en ai fait beaucoup des entrevues, mais je sais que ce soir, on va aller plus en profondeur. Alors, je vais être le plus transparente qu'il soit parce que je te fais confiance et l'audience qui est ici. Comment je vis ça, être introvertie dans le rôle que j'ai? Bien, c'est quelque chose qui s'est passé dans des beaucoup, beaucoup d'années. Là. Ça ne se fait pas en un an ou en 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis présidente maintenant. Tout comme rentrer dans le rôle, c'est quelque chose que tu prépares toute ta vie, ta carrière. Chaque opportunité de carrière, c'est une opportunité pour grandir. Chaque réussite, c'est une opportunité pour grandir, mais aussi quand on se plante là aussi, c'est une opportunité pour grandir aussi. Comme on dit, ça m'est arrivé, il y a des moments difficiles. Ça te dirait, j'avais la discussion ce midi avec quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, puis il me dit, t'es-tu une introvertie? Je dis oui. Il dit, ça se voit. Je dis, oh, c'est intéressant. La plupart des gens me disent, c'est impossible. Puis j'ai analysé ça pendant plusieurs années, mais ça, c'est, en fait, pour moi, c'est... Oui, je suis introvertie, ça me demande beaucoup d'énergie d'être avec des grands groupes, mais ça me donne beaucoup d'énergie aussi quand ça a de l'impact. Alors, j'ai mon drive, comme je te disais, est plus important que ma gêne. Alors, c'est constamment deux dichotomies, là... Ça demande beaucoup d'énergie, mais je reçois d'énergie avec l'audience, avec les gens que je rencontre. Je suis extrêmement curieuse. Alors ça aussi, ça me donne beaucoup d'énergie. J'ai appris à fonctionner dans mon rôle et dans le monde d'aujourd'hui parce que, ben, honnêtement, le monde, c'est pas vraiment un monde. En tout cas, dans ma business, c'est pas un monde d'introvertis. Mmh. Tu passes pas bien. Je suis honnête, là. Tu passes pas bien quand t'es trop introverti. Ça, en tout cas, il y a comme un... Les gens te connaissent pas. Et il y a peut-être un jugement derrière ça. Alors, je me suis adaptée. Et je le fais d'une façon qui est naturelle puis authentique pour moi, pour que, je puisse passer à travers puis avoir un impact qui est vrai aussi. Mm. Mais c'est pas facile. C'est comme constamment une bataille entre la gêne puis « Ah ouais, t'es capable, go, là, vas-y, là. »
Puis ça vient te chercher beaucoup, beaucoup d'énergie.
Oui.
Fait que comment tu gères ça? Au quotidien, dans ta vie, comment tu te gères, considérant toute l'énergie que ça vient de chercher?
Je vais chercher des choses qui me passionnent. Donc, en fait, ce qui me passionne, c'est de connaître des gens, c'est la business, c'est les entrepreneurs, c'est nos employés, nos équipes. Alors, je vais chercher de l'énergie positive dans les gens que je respecte. Et j'apprends d'eux, en fait. Ça me donne de l'énergie. Alors, même si c'est très demandant, en même temps, tu vas chercher ton énergie autrement, avec des choses qui te passionnent, puis qui te rend heureuse, puis tu réalises que ça a bien plus d'importance de faire une différence dans la vie des autres. Ça me donne de l'énergie aussi, si tu peux aider quelqu'un, que ça soit en affaires ou dans la communauté, par exemple. Alors, ça me donne beaucoup d'énergie, puis ça me rend fière. Puis je me dis aussi, mes enfants, là, ils ont 15 ans et 8 ans, j'aimerais ça être un bon modèle pour mes enfants. On fait tous quelque chose pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour nos familles. Alors, j'espère que c'est un bon modèle.
Tu te pousses toujours, dans le fond, parce que quand on est introverti, on doit se pousser,
oui,
pousser au-delà de ses limites.
Je pousse mes gens aussi. Bon, vous le dites. Mes attentes de moi-même sont très élevées. Puis oui, je me pousse tout le temps.
Oui, parce que tu disais souvent, je sors de ma zone de confort, mais je pense que ce soir, on comprend vraiment ce que ça veut dire.
Ouais.
C'est relié à ton tempérament, à qui tu es. Et t'as pas le choix. T'es pas dans une zone de confort.
Non. Là, je le suis pas. Là, puis je sais qu'on va rentrer dans les détails. Puis...
Oui.
mais en même temps, je te fais confiance. Puis en tout cas, j'espère que ça va avoir un impact positif ou que quelqu'un va apprendre quelque chose. Pour moi, c'est ça mon objectif. C'est quoi l'impact que ça va avoir, en espérant que ça soit positif, bien sûr.
Tu sais pourquoi tu es là.
Oui.
Et ça te conforte.
Oui.
Ça vient...
Puis si ça aide quelqu'un, bien, ça vaut la peine.
Parfait.
Ouais.
On est à la même place.
Ouais.
On va continuer.
Ouais.
Le 26, tu es né le 26 août.
Oui.
1975.
Oui.
Tu es enfant unique.
Oui.
Tes parents ont travaillé beaucoup dans les ambassades canadiennes en Afrique et en Europe.
Mm-hmm.
Tu as vécu dans 12 pays durant tes 18 premières années. Moi, j'ai de la misère à vraiment le voir, le comprendre. Puis, tu te demandes, peux-tu m'énumérer les 12 pays, puis idéalement en ordre?
En ordre, OK, en ordre. Bon, là, je vais y aller en ordre de ce que je connais, même quand j'étais bébé. Mais on est parti du Canada, j'avais 6 mois. Donc, on a fait le Sénégal, on a fait la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Belgique, on a fait la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud, Algérie, je l'ai dit, Tunisie, Maroc, Afrique du Sud, je l'ai dit, Amérique du Sud, Espagne, Portugal, en fait, c'est 13, France. Oui.
Wow.
Donc, puis un pays qui n'est pas connu, j'en ai pas beaucoup parlé, le Brésil, parce qu'on n'est pas resté longtemps. Ici, il y a une chose qui relie tous ces postes-là ou ces voyages-là ou ces déménagements-là, c'est que, tu sais, on dit diplomate, là, mais j'ai pas vécu avec une cuillère en argent, là, je vais vous le dire d'avance, là, ça a l'air super comme wouhou, sexy, les ambassades, là. Mais la réalité, c'est que ma mère était assistante à l'ambassadeur et elle s'est bâtie une vie. Mes parents ne sont pas allés à l'université. Mon père n'a pas fait le secondaire. Ils ont trouvé une façon de... Ils viennent de Saint-Michel, ici. Ils ont trouvé une façon de se bâtir une vie vraiment grandiose, sans avoir beaucoup d'argent. J'ai eu des expériences de vie tellement marquantes. Mmh. Et on a vécu dans beaucoup de pays que personne ne voulait aller. Parce qu'il y avait soit une guerre civile ou il y avait des gros problèmes ou, localement. Et donc, j'ai vu... ce que c'est la vraie souffrance. Quand tu vis comme ça, c'est pas un voyage là, pour le fun. Là. C'est très beau, ces pays. C'est superbe. Mais quand tu vois comment... T'as vraiment des exemples d'inéquité, là, les riches et les pauvres, là, tu le vois vraiment, là, surtout en Afrique. Là. Ça m'a vraiment marqué toute ma vie. Là. C'est quelque chose que je vais toujours me souvenir. Puis je pense que ça influence aussi comme mon désir d'aider le prochain, là, parce qu'on est vraiment chanceux d'avoir la vie qu'on a ici. On est vraiment chanceux.
C'est ça, tu peux pas vivre tout ça sans être profondément marqué.
Oui.
Et je me demandais, y a-tu un pays, un transfert? Parce qu'à chaque fois que tu arrives dans un nouvel environnement, y a-tu un moment où ça a été particulièrement difficile?
Bien, pas mal tous les déménagements. bon, quand t'es bébé, ben tu le sais pas. Là. Je peux pas dire ce que je vivais quand j'avais 6 mois. Mais je te dirais, à l'âge de... Dès 5-6 ans, là, ça commence à être vraiment clair dans ma tête. Là. On arrivait tout le temps à peu près au mois d'août. Puis l'école commençait au mois de septembre. C'est une chose que mes parents ont fait qui m'a vraiment aidée à garder une stabilité. C'est d'aller au lycée français parce que c'était toujours la même... Partout où tu vas dans le monde, c'est exactement le même système, même éducation. Donc, oui, c'est déstabilisant de déménager constamment de pays, mais au moins, tu as la même éducation. Partout où tu vas, il y a quelque chose que tu reconnais.
Oui.
Alors ça m'a beaucoup aidée pour avoir une belle stabilité pendant que je grandissais. Mais c'est sûr qu'on arrivait au mois d'août, puis tu avais un mois avant que l'école commence. Et oui, j'ai vécu beaucoup de moments seuls. Mes deux parents travaillaient, évidemment. Seul dans des nouvelles maisons, dans des nouvelles villes que tu ne pouvais pas vraiment sortir parce que c'était dangereux. Donc, tu sais, tu étais pris chez toi, là. Fait que
tu étais seule, tu n'avais pas de frère et de sœur.
Non, je lisais beaucoup.
Oui, c'est ça.
je dessinais, je me parlais. C'est comme c'est vrai, je me parlais.
Qu'est-ce qui se passait dans ta tête?
Beaucoup de choses. Oui. J'avais des amis imaginaires. C'est vrai, là.
Ça spinait.
Fait que là, tu vois, tout sort, là. Il n'y a personne qui sait ça, les amis imaginaires. Mais mon chum, qui a vécu toute sa vie au Québec, puis ça, on en parlera tout à l'heure, là, mais tu sais, 30 ans dans la même maison, là, ils ont vendu depuis, là, mais... Puis moi, qui ai déménagé toute ma vie, là, il me disait tout le temps, « Oh, that's so sad! » Qui est anglophone, mon chum. Il dit, « T'as des amis imaginaires. » Mais je dis, « Mais comment tu veux passer à travers quand t'es constamment tout seul pendant un mois? » Mais évidemment, dès que je commençais l'école, je me réintégrais.
Avec des personnes différentes.
Oui,
à chaque fois, tu sais.
Oui, oui. Ah, oui.
Fait que toi, dans le fond, intégrer une nouvelle société, puis en plus, dans plusieurs de ces pays-là, t'es une minorité visible.
Oui.
Alors, intégrer un nouveau pays, intégrer une nouvelle société, tu sais comment faire ça.
Oui.
Comment on fait ça?
Bien, la bonne nouvelle, c'est que quand tu vas au lycée français, il y a des gens de partout, right? C'est, okay. Oui, tu as des gens locaux, absolument. Et puis tu as des gens qui voyagent comme nous. Et donc, c'était vraiment une opportunité de trouver, encore, de bâtir des amitiés, des liens de confiance avec de nouvelles personnes. Mais comment tu fais ça? Bien, c'est quand tu arrives dans un nouvel endroit, mais c'est à toi d'apprendre à connaître les autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, là. C'était à moi d'apprendre à connaître les autres autour de moi. J'ai fait quelques erreurs, là. Je me rappelle très bien, là, 8 ans, 10 ans, 12 ans, là, où je m'étais pas nécessairement fait les bons amis. Puis c'est pas bon non plus. Puis je me voyais bien aller dans la mauvaise direction. Mais si tu apprends à c'est toi qui vas vers eux. Même encore une fois, ça me demandait tellement, là. À chaque fois, là, j'avais une peur bleue, là, comme de commencer l'école puis d'avoir à connaître des nouvelles personnes. C'était vraiment une grosse anxiété pour moi, mais c'était plus important de trouver une façon to fit in. Fait que à ma propre façon. Fait que c'est ça qui, encore une fois, si on revient à la dichotomie, là. Donc, j'avais peur, mais en même temps, je voulais connaître le monde puis je suis extrêmement curieuse. Puis je sais que si je le fais bien, ben, je vais bâtir des relations de confiance, puis à un moment donné, ça va changer.
Mmh. Ouais. Tu rêvais à quoi quand tu étais seule dans ta maison?
Oh mon Dieu, là, tu me poses vraiment des questions, tu me ramènes en arrière. Ça dépend de l'âge.
Ouais. Ben, mettons jeune ado, là.
Ouais, jeune ado. Faire des amis. Faire des amis, avoir quelqu'un à qui parler. C'est tout simple que ça, là. Puis me sentir bien où j'étais.
T'as-tu gardé des amis de cette période-là?
Oui, ben c'est intéressant. Tu rencontres évidemment des milliers de personnes à travers ta vie, là, mais il y a quelques amis que j'ai gardés qui sont vraiment... tu les vois, c'est comme si c'était hier. Là. J'en ai une en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Belgique. Mais tu sais, c'est une personne, c'est drôle, une personne par pays que j'ai comme rapetissé le cercle à une ou deux personnes qui sont, pour moi... les personnes qui seront toujours dans ma vie.
Tu es allé chercher le top, top.
Ben, c'est l'impression que j'ai, ouais. Puis c'est, okay. C'est devenu naturellement ça.
Ouais.
Ça s'est éliminé tout seul, finalement. Là, on garde des gens de qualité autour de nous. La vie est très occupée. Hein. Mm-hmm. Donc, il faut entretenir des relations d'amitié aussi.
Qu'est-ce que tu disais à tes parents, à un moment donné? Est-ce que tu leur disais, c'est assez, là, on a assez déménagé. Là. Toi, c'était quoi ta prise de position dans tout ça?
Il n'y en avait pas. Mais ça, c'est une très bonne question. On ne m'a jamais posé cette question-là. On me pose souvent la question, c'est quoi ton plus gros ajustement? Mais on ne m'a jamais demandé, c'est quoi ton opinion? Merci de me poser la question.
Enfin!
C'est gentil. Mais je pense que j'étais un enfant qui était assez adaptable. Sinon, ce n'est pas tous les enfants que je pense qui s'adaptent aussi bien. Là. J'ai grandi là-dedans. Mais je pense que je cherchais aussi la... Tu sais, j'ai un grand désir d'aventure, puis encore une fois, la curiosité qui revient. Fait que, tu sais, quelque part, je sais pas, on m'a jamais donné l'opportunité d'avoir une opinion. C'est vraiment dommage, mais je suis honnête, je suis transparente. C'est peut-être pour ça que je demande beaucoup l'opinion aujourd'hui. Mais moi, c'était dans ma vie, c'est ça. Et puis, adapte-toi et trouve une façon d'être heureuse, là. Donc, c'est... Si tu me le demandais aujourd'hui, est-ce que je le referais? J'ai eu une vie incroyable, ça l'a bâti qui je suis aujourd'hui, puis mes parents étaient tough, puis comme ils disaient, comme si tu veux quelque chose, tu travailles pas, puis tu roules les manches, puis voici la vraie vie, là. Mais en même temps, profite de ce que tu as, parce que c'est pas tout le monde qui peut voyager comme toi. T'sais, ça, c'est vraiment le message que j'ai eu toute ma vie. Et puis, quand c'est arrivé à 18 ans, comme dès que l'âge de 16 ans, mes parents m'ont dit, là, faut que tu penses à ce que tu veux faire à 18 ans, là, parce que nous autres, on va continuer à voyager, puis toi, tu veux quoi? Fait que déjà, on me responsabilisait dès l'âge de 16 ans si je voulais vivre au Canada. Puis évidemment, j'ai décidé de venir vivre au Canada à 18 ans. Et mes parents ont continué à Singapour à ce moment-là. honnêtement, c'est moi, avec mes enfants, si je regarde mes enfants aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait possible de vivre cette vie-là. Mon fils serait probablement plus adaptable. Ma fille, ce serait très difficile pour elle de s'adapter. Mmh. Le changement, c'est très dur.
Mmh.
Être autiste, c'est pas... tout changement crée beaucoup d'instabilité. Alors, pour ça, pour dire, c'est pas tous les enfants qui peuvent le faire. J'ai été chanceuse de pouvoir le faire.
Mm-hmm.
Puis, I think I turned out okay. Mais, il y a eu des moments difficiles, c'est certain, à travers toute ma vie. Ouais, ouais.
Ouais, mais c'est majeur. C'est majeur dans ta vie. Puis, je suis curieuse aussi de comprendre comment on se bâtit une identité, non seulement personnelle, ça, je pense que c'est peut-être plus compréhensible pour moi, mais l'identité culturelle.
Ouais.
Puis tu venais au Québec à tous les étés. Est-ce que c'était suffisant pour te raccrocher à une culture ou non? Puis comment t'as vécu ça?
Ouais, ouais, définitivement. Pour moi, c'était la chose que j'ai pas touchée. Et puis mes parents sont vraiment québécois, là. Puis toute la famille autour de mes parents, vraiment québécois. Alors, ça m'a toujours fascinée. Je voulais vraiment venir vivre au Canada. Et découvrir le Québec. Comme 2-3 semaines par été, c'était super le fun pour voir la famille. Mais ça m'a gardé ancrée toute ma vie, honnêtement. Même si on n'avait pas de maison, ça m'a gardé ancrée avec le Québec. Ah, c'était mon identité.
Un peu l'absence de créer un attachement.
Oui, ça a créé un attachement. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais c'était la constance tous les ans. Puis aussi, quand on avait des problèmes de guerre, ben des fois, ils me renvoyaient au Québec, comme quelques mois. Je me rappellerai toujours, on était où? On était en Tanzanie, probablement. Puis, on m'a renvoyé au Québec pour étudier ici pendant que ça se calmait là-bas, là. Du mois de janvier au mois de mars.
Okay.
Et j'avais jamais vécu d'hiver. Alors, je peux t'expliquer que c'était assez traumatisant.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça parce que tu venais juste l'été.
Oui.
Mais est-ce que c'était aussi traumatisant que les bruits de bombes ou de fusils que tu entendais en Tanzanie?
C'était mieux, évidemment. Là, c'est effectivement.
C'était moins pire.
Oui, c'était moins pire.
OK. Tu me rassures.
Les bruits de bombes. Mais malheureusement, les bruits de bombes puis les bruits de fusils, je les entendais quand je parlais à mon père. Tu sais, tu sais jamais là qu'est-ce qui va se passer. Puis, tu sais, on a grandi dans des maisons avec des portes blindées. Tu sais, c'est vraiment là... en tout cas, j'en parle jamais comme ça, mais tu l'as ressorti.
Est-ce que tu as un traumatisme relié à ça?
Peut-être pas un traumatisme, une conscientisation de ce que c'est les vrais défis. On a des défis aussi là, mais les vrais défis mondiaux, des vrais problèmes que des
gens qui ont rien.
Oui.
Des gens qui sont à la guerre. Ça, tu connais ça.
Puis qui perdent des membres de la famille régulièrement.
Puis tu connais la réalité de s'intégrer dans une société quand on arrive seul. Puis tu connais le sentiment d'être une minorité visible.
Oui. Puis j'étais chanceuse dans le sens que, quand même, au lycée français, il y avait une belle diversité, là. Mais justement, tu voyais de tout. Tu voyais vraiment des enfants à risque et tout ça. Là. En tout cas, c'était. T'apprends beaucoup comme ça. T'apprends jeune.
Non, mais quel riche bagage! Et puis, le moment venu, elle déménage à Ottawa pour entamer un baccalauréat en psychologie.
C'était quoi ta motivation de rentrer, de rentrer d'abord, puis ensuite ta motivation d'étudier en psychologie?
Bien, Ottawa, parce que mes parents sont revenus un an aux affaires étrangères avant de comme remanier c'est quoi les prochains postes. Et puis, ils m'ont dit, bon, ben là, tu commences l'université, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ben tu restes ici ou tu suis à Singapour, puis on va s'organiser. Puis j'ai dit, ben non, je veux rester au Canada. Et donc, j'ai étudié en psychologie à l'Université d'Ottawa. Et puis après ça, je me suis dit, ben là, il faut que je vive à Montréal, il faut que je vive au Québec quand même. Là. Fait que tout de suite après ça, ben très jeune, je suis venue, après mon bac, je suis venue ici à Montréal. Puis là, je me suis dit, je déménage plus jamais du Québec, je suis ici. 3 ans plus tard, j'étais à Toronto.
Ouais.
Alors voilà, c'est ça.
Mais pour une très bonne raison.
Mais je suis de retour.
Pour une très bonne raison. Puis dis-moi, la psychologie, c'était quoi l'objectif quand tu as étudié en psychologie? Comment tu te voyais plus tard?
Je pense que je cherchais à me comprendre aussi, puis à travers tout ce que j'ai vécu. Puis c'est l'âge parfait, là. Quand t'es jeune, tu cherches à comprendre un petit peu qu'est-ce que tu recherches dans la vie en général. Mais c'était aussi le profond désir de comprendre les gens, de comprendre qu'est-ce qui fait... qu'on réagit d'une certaine façon ou qu'on décide quelque chose ou qu'on a des idées absolument arrêtées ou pas. C'est quoi qui fait la différence, comme, qui bâtit quelqu'un à penser comme, comme on pense? Là. Fait que moi, c'est, encore une fois, la grande curiosité là, de pourquoi l'humain pense comme il pense.
Qu'est-ce que tu as découvert sur toi?
J'ai découvert que j'ai énormément de capacité à moi, je trouvais que c'était normal, là, ma vie, là, c'était ça. C'était normal. Mais que plus j'en parle, les gens me disent, moi, waouh, je dis, mais là, tu veux, waouh, c'était ma vie, là. Mais effectivement.
Tu as découvert que tu avais eu une vie extraordinaire.
Oui, ouais. Enrichissante. La capacité d'adaptation, enrichissante aussi. Puis c'est quelque chose à ne pas prendre pour acquis parce que c'est une grande richesse, en fait. C'est ce que ça fait qui je suis aujourd'hui aussi.
C'est quoi le rôle de la psychologie dans ta carrière?
Bon, alors, on l'a beaucoup utilisé durant la pandémie, c'est certain, ça, c'est la réponse. Mais c'est la vérité, on rit, mais c'est you want to talk about leaning in, là? We leaned in, là. Tous les gestionnaires, on a vraiment...
Avec le cœur sur la table, là?
Le cœur et toutes les tripes et tout le kit, mais en même temps, il faut s'occuper de soi-même pour s'occuper des autres, là. Comme, tu sais, apprendre à mettre ton masque. Maintenant, je peux le dire, là, mais c'était horrible. Je détestais ma job. Je vais le dire, là, comme je vous dis, là, je détestais, là. Y a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas un CEO ou un entrepreneur qui va me dire que tout allait bien, là. C'est impossible. Même si l'entreprise fonctionnait bien, c'était crise après crise après crise après crise après crise, puis tout le temps avoir peur de perdre ton monde. Tu sais, c'était... Puis la réalité, c'est que si t'as pas de monde, t'as pas de business, t'as pas de client. Bon, en tout cas, pour nous, c'est ça. Mais il fallait rester sans froid, mais en même temps transparent, puis vraiment vulnérable. Ça a testé l'humanité, je pense, pour tout le monde, là, que tu sois gestionnaire ou pas. Fait que je pense que la psychologie m'a beaucoup aidée de ce côté-là, comme pour que moi, je puisse rester forte aussi. Je le disais pas que j'aimais pas ça, mais maintenant, je peux le dire. C'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment... On pouvait pas vraiment gérer une business, là. On était dans la constante crise. Moi, j'aime gérer les business, fait que ça, c'est super le fun. Là. On gère beaucoup de changements aujourd'hui, puis c'est un beau défi en soi, mais c'est pas crise après crise après crise. En n'a pas sa chance, tu peux ouvrir tes portes le lendemain matin. Si une succursale peut être ouverte ou pas pour le client, si on est capable de ramasser quelqu'un à petite cuillère. T'sais, c'était vraiment pas évident. Puis on en sert des clients. Là. On a 2 millions de clients au Québec. On est 7 000 au Québec à RBC. Donc, ça, c'est beaucoup de monde. Fait que, tu sais, t'envoies des choses.
T'as-tu un moment... Tu sais, ça a été quoi tes moments de découragement? Est-ce que tu te souviens d'un moment de découragement puis d'une solution que t'as trouvée?
Ouais,
au fond de toi ou à côté de toi?
Il y en a eu plusieurs là, durant la pandémie, mais j'ai une responsabilité, j'ai des gens sous ma responsabilité, j'ai une famille, j'ai aussi mon autre famille et des clients et tout ça qui ont aussi besoin d'aide. Fait que tu te ramasses puis tu te dis, ben OK, demain, ça va être mieux puis tu vas trouver la solution. Puis des fois, c'est même pas d'avoir une solution, c'est d'écouter puis d'être là puis d'être empathique puis d'avancer. Tout le monde le vit ensemble, cette crise-là. D'autres exemples de découragement. Écoute, ça, pour moi, là, c'est tout le monde me dit que ça a l'air tellement facile. Premièrement, c'est pas facile, je vous le dis d'avance. C'est comment est-ce qu'on se relève. Fait que moi, le matin, je me lève, puis je vois le verre à moitié plein ou plein. Puis quand je le vois pas plein, là ça veut dire que je suis découragée. Fait que là, faut que je me check, là. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin? Je peux pas arriver avec mon verre vide, là. C'est pas inspirant, premièrement. C'est pas motivant. Faut être vrai, faut être vulnérable. Mais si t'es gestionnaire, puis ça va pas, ben dis-le. Mais après ça, move on, là. Comme we have to be able to move on, là. Explique-toi, là. Puis les gens vont te supporter. Mais à un moment donné, faut avancer. Donc, je te dirais, j'essaie de me lever avec, tu sais, le verre à moitié plein, au moins, au minimum. Mais il y a eu des moments où tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais faire ça, là? Un moment qui m'a vraiment traumatisée, comme parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, là, quand j'étais plus tôt dans ma carrière, quand j'étais directeur de compte au commercial, puis ça, certaines de mes équipes la connaissent l'histoire, là, mais elle m'a tellement profondément marquée parce que j'étais jeune leader, j'avais pas encore beaucoup vu dans ma vie en termes de carrière, là. Et puis donc j'avais Amélie, donc ma fille qui était là, j'avais mon petit qui s'en venait, je faisais mon MBA, j'avais une nouvelle job, puis là j'ai mon mari qui tombe malade, mais très malade là, à l'hôpital, là. On était à Toronto, j'avais aucune famille. Oui, j'étais découragée, là, j'avoue, là, je sais pas comment je vais me sortir de ça, parce que j'ai besoin de ma job parce que ça paye les factures, j'ai besoin de performer pour avoir ma job. J'ai besoin de m'occuper de ma famille. Puis là, j'ai mon mari qui est malade, puis j'ai personne. Puis il faut que je fasse mon MBA, je suis déjà là-dedans. T'sais. Fait que c'était la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je vais gérer ça? Puis j'ai demandé à une de mes mentors, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce qui est moins important que l'autre. Évidemment, ma famille est très importante, mais j'ai besoin de ma job pour soutenir ma famille. Donc, je me rappelle toujours tout ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, Nadine, il faut que tu prennes un pas de recul, là, puis tu penses à... tout est important, là, mais y a-tu quelque chose où tu peux enlever ton pied sous le gaz? Parce qu'elle dit, je te connais, là, tu veux tout faire à ta façon, là, all in, là. Mais elle dit, là, c'est pas possible. Fait que c'est quoi que tu peux ralentir pour t'aider à te réorganiser puis trouver un système de support pour passer à travers. Puis donc, j'ai fait mes réflexions. Puis finalement, le meilleur choix avec le minimum d'impact négatif, c'était de prendre un recul sur mon EMBA, prendre un break pour respirer, puis y revenir. Puis là, c'était comme je voulais pas sortir de mon programme, évidemment. Alors là, il a fallu que j'aille au dean, puis je dis, au groupe, est-ce que vous allez me garder si je prends un break de 6 semaines? Je vais tout faire pour me rattraper, puis je vais faire ma part et tout ça. Puis donc, c'est des semaines de... Ça a pris beaucoup de courage en passant. Je voulais pas le faire, mais au profond de moi, je trouvais que c'était vraiment important, plutôt que de recommencer dans une autre cohorte. Et puis, finalement, après plusieurs semaines de discussion, ils m'ont accepté de prendre un break de 6 semaines puis de revenir après. Ça a tout changé, parce que moi, j'ai pu mettre de la clarté dans mes idées, m'organiser, demander à ma mère de venir m'aider, avoir un système de support pendant qu'on passe à travers, surtout l'hospitalisation de mon mari, puis qu'on s'occupe des enfants, puis que je puisse travailler. Donc,
quelle histoire.
Oui, ouais, mais non, c'est j'en ai d'autres, là, mais celui-là en particulier, là,
je suis curieuse
quand j'en parle, ça vient encore me chercher.
Puis, qu'est-ce que ça a changé chez toi?
I can do anything. I can do it. Puis je pensais vraiment pas pouvoir, là, honnêtement. Là, je suis vraiment transparente.
Ça a augmenté ton sentiment de confiance en toi.
Oui. Ouais. Quand on s'organise, on est capable de trouver une solution. Ça veut pas dire que tu l'as toute, là, mais donne-toi un moment pour respirer. Puis la solution, évidemment, tu vas la trouver éventuellement. Puis il y a des gens autour de nous là, à qui on peut faire confiance, puis on peut les avoir, ces vraies conversations-là. Puis aller chercher de l'aide. Je suis allée chercher de l'aide, en fait. Si j'avais pas fait ça, je sais pas qu'est-ce qui serait passé.
Ouais. Merci tellement, là.
Ouais.
En 1998, il y a 25 ans, presque jour pour jour, t'as commencé à travailler à la RBC au comptoir.
Ouais.
On appelait ça caissière. Ouais. Aujourd'hui, on appelle ça conseillère.
Oui.
À la clientèle. Bon.
Ouais.
Comment es-tu tombée sur la RBC? Parce que franchement, t'es tombée sur le jackpot,
Ah oui. Ben, en tout cas, moi, je trouve que oui. Là, c'est ça. Alors, premièrement, j'étais étudiante. Moi, je pensais comme faire mes études, payer mes études à travers RBC et devenir psychologue vu mes premières études. Mais j'ai tellement aimé l'environnement puis les valeurs de RBC, mais surtout les gens que tu rencontres. Moi, j'ai fait plein d'amis, des connexions importantes à travers RBC. J'ai rencontré mon mari même à travers RBC. Alors, puis on a plein d'exemples comme ça qui sont super romantiques. fait que je sais plus à qui je parlais, là, mais tu sais, souvent, là, quand on connaît pas les institutions financières, on pense tout le temps que c'est comme, c'est plate, les banques. Je vous dis, là, c'est pas plate pantoute, là. On a des jobs vraiment intéressants, puis il y a de tout à faire. Et,
c'est un club de rencontres, si j'ai bien compris.
Ben oui! On travaille tellement fort, il faut bien que tu rencontres du monde. Puis il n'y avait pas ces affaires de swipe là, dans ce temps-là, là, comme on dit à 25 ans. Fait que tu rencontrais le monde à travers ton travail ou à travers des collègues du travail. Qu'est-ce que je te dirais? Donc, j'étais étudiante et j'ai vraiment adoré l'environnement. Puis je me disais, je peux vraiment grandir ici. On verra bien ce que ça va donner. Je me suis dit, je vais étudier je vais faire ma planification financière. Je veux devenir planificateur financier. C'est quelque chose qui me fascinait. Puis, encore une fois, connaître les gens, les aider dans leurs affaires familiales et puis les aider à planifier pour leur vie. Puis, the rest is history.
Mais comment ça s'est passé, la job? Comment tu l'as obtenue? Puis, pourquoi tu es allée à RBC?
OK. Fait que là, mes parents, quand on venait l'été, on venait toujours à la banque une fois par été ou peut-être quelques fois, mais moi, ils m'amenaient une fois par été. Puis, je trouvais que les gens étaient tellement gentils. C'est vraiment niaiseux, mais c'est ça. Tellement gentils, puis tellement professionnels. Puis je trouvais l'environnement vraiment... En tout cas, je me sentais bien quand j'allais à RBC. Puis mes parents ont toujours parlé en bien. Ils sont clients depuis qu'ils sont tout petits. Là. Puis moi, j'avais mon compte quand je pense que j'avais 5 ans, qu'on a ouvert un compte. Puis je me disais, un jour, là, je vais travailler pour RBC. comme, tu sais, les gens disent, je veux être pilote. Là, moi, je disais, je veux travailler pour RBC. Et voilà, je suis encore à RBC.
Tes parents doivent être tellement fiers de toi,
ouais.
En passant. Par, ouais. Mais tu sais, quelle belle histoire.
Oui, ouais. Je suis la première à étudier, première à faire, puis évidemment, être où je suis aujourd'hui, c'est... Mm. Oui,
ouais.
C'est assez incroyable. Mais c'est grâce à eux, ils m'ont donné le courage aussi.
Oui.
Ils m'ont donné les valeurs.
Là, tu vois, on a regardé tout ce qui t'a amené là.
Ouais.
C'est pas pour rien, là, t'es,
ouais.
T'es arrivé là.
Ouais.
Puis en 2002, comme tu disais tout à l'heure, à peu près 4 ans plus tard, à 27 ans, tu quittes Montréal, un autre déménagement, pour Toronto.
Ouais.
Et la raison, c'est que ton chum a été transféré...
ouais.
Hein, la Bourse de Montréal a fermé,
ouais.
Puis il se retrouve,
ouais.
À Toronto.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que là, tu vas te retrouver devant un gros, gros défi. Alors, raconte-nous qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à Toronto.
Bien, à cet âge-là, tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, c'est facile. C'est comme, ah, ben, c'est un autre déménagement. Là. Je me suis dit, ah, je ne voulais pas déménager, mais je me dis, ah, bon, on verra bien. Si ça marche, super. Puis si ça ne marche pas, ben, je reviendrai. On n'était pas mariés, là, on était encore boyfriend, girlfriend. Et je me dis, ah, c'est une autre aventure. Fait que pour moi, c'est une autre aventure. Et donc, j'ai appliqué pour devenir planificateur financier à Toronto. Aucune idée où est-ce que je m'en allais. J'ai pris... c'est quoi ça? Pape and Danforth. Fait que je me suis rendue sur le Danforth comme planificateur financier. Puis je me rappellerai toujours, là, j'avais comme 30 clients qui n'étaient pas vraiment des clients planificateurs financiers. Fait qu'il fallait vraiment bâtir le book. Je suis arrivée là et je me suis dit, wow, je connais personne. J'ai pas de clients. Ma job, c'est de gérer des clients. J'ai pas de clients. Comment je vais faire ça? Mais ça m'a donné, encore une fois, un renouveau d'énergie pour trouver une façon de justement bâtir des relations puis aller chercher des clients. Puis que, un client à la fois, là, qui te réfère à d'autres clients, puis j'étais passionnée de ce que je faisais. Puis encore aujourd'hui, là, c'est plusieurs années plus tard, là, j'ai encore des clients qui m'écrivent de cette première job-là à Toronto.
Tu les as marqués?
Oui, mais ils m'ont marqué aussi.
Ouais.
Fait que c'est, tu discutes des affaires familiales, là, ça va profond, là, de leurs finances, puis il faut vraiment du courage pour t'ouvrir, pour répondre aux questions qu'on pose, pour pouvoir bien planifier. Là.
Mm.
Fait que tu bâtis, comme si tu le fais de la bonne façon, tu bâtis un certain niveau de confiance vraiment assez incroyable.
Nadine réussit donc à bâtir son portefeuille de clientèle. Et puis, à un moment clé, elle puisera dans sa réserve de courage pour poser une question. Une question qui mettra la suite de sa carrière sur les rails.
J'ai eu l'opportunité de après 3 ans, là, j'ai eu l'opportunité de mériter un tu sais, on fait des conventions comme un congrès, là, tous les ans, les top performers, ils vont sur la croisière, ça fait comme 50 ans qu'on fait ça, là. Et donc, ces comportements, c'est évidemment les résultats, l'impact, tout ça autour des collègues et ton rôle. Et donc, pour te différencier, puis c'est 1% de la population de RBC qui gagne ça, puis c'est à travers le monde. Fait que tu vas sur le bateau pendant 7 jours et puis tu rencontres tous les exécutifs de la banque. Donc, c'est vraiment une opportunité en or de rencontrer les gens haut placés. Puis, donc, j'ai mérité ce congrès-là. Puis c'est là que ça a commencé... Ma carrière à Toronto a vraiment continué à me démarquer. Puis je me rappellerai toujours d'un souper que j'ai eu avec la présidente à ce moment-là, la présidente qui était à Toronto.
Ton équivalent aujourd'hui.
Oui, exactement. Okay. Puis t'es assise avec elle à souper, puis je me rappelais à qui je me disais, mon Dieu, on a une invitation. Je dis, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi dire. Il dit, mais là, relax, là. Juste, mon chum, il est vraiment down to earth, là. Il dit, relax, là, va juste be yourself, là. You're here for a reason, là, puis apprenez à vous connaître. Puis je me rappellerai toujours, j'étais vraiment gênée, là. C'était jeunesse dans ma carrière, là. Mais elle posait des super bonnes questions, fait qu'elle m'a rendue à l'aise. Puis je me suis dit, à un moment donné, ça, quelque chose en moi qui a cliqué. Puis je me dis, OK, là, il y a comme 10 personnes autour de moi. Mais il faut que je parle carrière, parce que c'est mon moment pour plugger une question carrière, parce que je veux grandir. Et je lui ai demandé, je dis, Jennifer, what do you think about being a leader? Like, few people have asked me now, you should be a leader, parce que je développais d'autres planificateurs financiers. Should I do it? Should I do the move? Elle me dit, tout de suite, elle dit, you should do it right now. Right now, elle dit, tu reviens là, puis, you know, you should think about it and talk to the... Elle dit, je vais t'aider, puis ça. Fait qu'elle, c'est elle qui m'a ouvert la porte au leadership pour la première fois. Ça m'a donné des opportunités en or, là. Puis j'ai appris beaucoup d'elle, en fait. Oui,
ouais, c'est ça. Je me posais la question, est-ce qu'il y a un grand Manitou à quelque part, tu sais, qui décide...
C'était ma première grand Manitou, oui.
Oui,
ouais.
Qui décide que Nadine, elle va passer de tel poste à tel poste, parce que t'as fait t'as fait 12 pays, mais t'as fait 13 postes.
Oui. Ouais. 5 business, 13 postes. Ouais.
À RBC, dans toutes ces années-là, t'as touché à plein de secteurs.
Ouais.
Puis à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui décide que tu vas monter?
Bien, il y a quelqu'un qui voit ton potentiel.
Ça a été Jennifer. Sûr. Jennifer,
oui, c'était elle qui l'a vu en premier. Ouais. Fait qu'elle m'a vu aller pendant... Je savais pas, là. Elle m'a regardé aller pendant 3 ans, en arrière.
Ouais.
Puis... Elle s'est dit, waouh, la petite fille là, qui arrive du Québec, là, qui connaît personne, puis qui se démarque plus que n'importe qui d'autre là, à Toronto, dans un univers extrêmement compétitif. C'est assez intéressant. Fait que ça a commencé comme ça. Puis moi, j'étais juste super passionnée, puis drivée, puis d'accomplir plus. Là. C'était pas, je veux pas être meilleure, je veux juste être la meilleure que je suis. Mm. Donc, mais elle a remarqué. Puis oui, c'était déjà une bonne façon de me mettre en confiance. Alors, j'ai pris mon premier rôle de leadership. Et puis... Mais j'ai dû appliquer, là, comme tout le monde, mais elle m'a vraiment encouragée à le faire. Et comme tout le monde, j'ai fait mes premières erreurs de premier leader. Là. Je voulais aller plus vite que mon équipe savait ou pouvait ou voulait. Moi, je savais exactement où on s'en allait. Là. On s'en va là. Ouais, mais il n'y a personne qui suivait. Fait qu'en tout cas, j'ai beaucoup appris de ça, là, à vraiment, encore une fois, prendre un pas de recul, puis apprendre à connaître mes équipes, puis dire, OK, où est-ce qu'on veut aller? Puis comment est-ce qu'on va le faire? Il faut le faire, là. We have to be the best we can be. Mais comment est-ce qu'on va le faire ensemble? Puis 6 mois plus tard, on a reparti la machine.
C'est quoi le poste le plus difficile que tu as eu? Ou le plus, disons, le plus, restons positifs, le plus formateur?
Formateur. Bien, il y a eu des moments, des milestones, je te dirais, qui m'ont formée.
Mm-hmm.
Bien, évidemment, le poste à la caisse, c'est vraiment important parce que tu apprends tellement là, sur la banque quand tu es là. Premièrement, c'est extrêmement intimidant d'être un jeune employé devant des clients que tu ne connais pas, il faut être professionnel et tout ça, puis tu sais pas vraiment ce que tu fais, tu apprends. En tout cas, c'est leur argent, là, c'est très intimidant.
Oui.
Et bon, tu as des bonnes situations, puis tu en as des moins bonnes, mais tu apprends beaucoup à travers tout ça. C'était très formateur parce que tu apprends beaucoup sur la banque de ce côté-là. Puis après ça, faire différents postes, c'est super important, mais je pense que le prochain milestone, c'était vraiment la planification financière, parce que j'ai appris à quel point ça me passionnait de faire affaire avec des clients, vraiment d'apprendre à les connaître plutôt que de faire des transactions. Mm-hmm. C'est pour moi, le transactionnel, c'était une chose, mais ce qui m'a rendue forte comme caissière, c'est parce que je bâtissais des relations justement avec le client, une relation de confiance. Fait que planification financière, le prochain gros moment, c'était mon premier poste de gestionnaire. J'ai appris avec la porte d'en face au début. Et après ça,
c'est quand tu étais directrice de succursale?
Oui. Okay. Oui. Fait que je me suis
à Toronto?
Mais j'ai demandé du feedback. Oui, j'ai demandé du feedback, puis j'ai bien vu que j'avais pas fait... ou dit les bonnes choses. Et j'ai bien vu que j'avais mis l'équipe en arrière. En fait, on avait reculé de quelques mois. Ça a pris 6 mois pour que je regagne la confiance de l'équipe.
Wow.
Ou que je la bâtisse. 6 mois.
Qu'est-ce que tu as fait pour... est-ce qu'il y a eu un moment où tu
t'es assis? J'ai demandé du feedback à des gens qui n'avaient aucun problème de me dire les vraies affaires. Puis j'écoutais. Puis ça fait mal. Mais je me suis dit, OK, bon, mais que ce soit une perception ou pas, c'est ce que les gens pensent. Il y avait cette impression que j'étais juste business... that I didn't care about anything else but results. I do care about results, but I care about people first. Fait que c'était tellement drivé que j'avais oublié l'importance de bâtir cette confiance-là avec mes équipes pour y arriver. C'est normal, j'étais super excitée. Là. J'étais comme, tu sais, moi, j'étais comme...
enthousiaste. Oui!
Puis je sais ce qu'on est capable de faire. Fait que c'était pas quelque chose de négatif, mais c'est mal sorti.
Mm.
Fait que c'est des erreurs de nouveaux gestionnaires. Fait que ça a été un moment marquant dans ma vie, mais qui a eu le courage de me dire les vraies affaires. T'as dit ça, t'as fait ça, on n'aime pas ça. Des fois, tu te fais dire ça, puis il faut que tu prennes avec un grain de sel. Là. Mais la réalité, c'est que mon premier rôle de gestionnaire, c'était à moi de m'adapter. Ils avaient eu 5 gestionnaires pendant 5 ans. Fait que pour une raison ou pour une autre, ça ne marchait pas. Comme je ne sais pas pourquoi, ça ne fitait pas. C'est une équipe très difficile. Mais pas une équipe, un environnement très difficile. Mm-hmm. Donc, t'sais, c'était à moi, là, les revenus, ma jeunesse, là, c'était à moi de m'adapter à eux. Pas à moi d'arriver sur mes grands chevaux avec mes grandes idées. Mmh. Puis quand je me suis adaptée, ça a tout changé. C'est un moment marquant dans ma vie. Puis là, ça a beaucoup informé le reste de mes rôles. Autre moment marquant, commercial, entreprise. Je voulais pas y aller.
À Montréal?
Non, j'étais à Toronto.
À Toronto.
17 ans quand même à Toronto. J'ai fait beaucoup de postes là-bas. Je voulais pas y aller parce que je me voyais, quand j'avais fait un poste de caisse centrale, là, dans un des autres postes que j'avais fait au début... Puis, je comptais de l'argent à journée longue, puis je balançais à journée longue, puis je passais mon temps dans les coffres, puis j'avais jamais d'interaction avec les clients. Fait que je me voyais, oh my God, le commercial, l'entreprise, c'est des états financiers. Fait que tout ce que je voyais, c'est des chiffres. Puis je voulais pas le faire, mais encore une fois, ma mentor, elle dit, je suis allée la voir, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, Nadine, elle dit, tu veux grandir, là? Il faut que tu fasses d'autres lignes d'affaires, là. Fais-le, justement, parce que tu veux pas le faire, tu devrais le faire. Fait que, plusieurs conversations plus tard, je me suis pas convaincue de même comme ça, là, mais plusieurs conversations plus tard, je dis, OK, go, j'y vais. Et ce qui devait être un apprentissage est devenu une expérience de vie extraordinaire. J'ai adoré l'entrepreneuriat. J'ai appris énormément. Puis le moment où j'ai compris dans les états financiers, il y a une stratégie, puis il y a du monde derrière tout ça, mm-hmm. pour moi, ça a tout cliqué, okay. là. Adorer ça, là.
OK.
Adorer. C'est vraiment le fun. Puis, évidemment, ça m'aidait à être... Dans ma tête, ça va m'aider à être plus compétitive, je vais pouvoir grandir. C'est toujours... Je veux toujours voir qu'est-ce que je peux apprendre de plus puis comment je peux grandir plus. Mm. Ça m'a vraiment challengé le commercial. Mm. C'est un autre gros moment marquant. Puis, j'encourage mes équipes aussi à le faire ou à faire différentes lignes d'affaires, évidemment. Mm. C'est surtout ça, parce qu'on peut le faire dans ma business. Un autre gros moment marquant, c'est les prêts spéciaux. Quelque chose que j'aurais jamais planifié dans ma carrière. Mais quand tu t'assois avec un entrepreneur là, qui est au bout, là, puis que tu n'as aucun ratio, puis il n'y a rien qui fonctionne, là. Tu prends ta décision basée sur la confiance que tu as avec cet entrepreneur-là, son plan, sa stratégie de redressement et son équipe, et qu'est-ce qu'il va faire, oui ou non, il ou elle. Tu as besoin de psychologie. Là. Fait que moi, tu m'as posé la question tout à l'heure. Là. Je pense que j'ai étudié encore plus dans ces scénarios-là. Un, pour supporter le client, pour passer à travers. Mais deux, pour être capable de décider, en tout cas, j'espère, de prendre les bonnes décisions.
C'est ça, la responsabilité oui. que tu as sur sa vie.
Oui, exactement.
On entend tellement d'histoires de banquiers oui. ici à Brave.
Oui, oui, oui. Non, non, c'est des gros moments. Tu es dans leur vie. Là. C'est leur bébé. Là. C'est pas juste... T'as ta famille, oui, mais t'as ton entreprise que t'as bâtie, là, de zéro, là, qui ouais. est en trouble en ce moment. Fait que nous, notre rôle, c'était vraiment de rebâtir avec eux, mais il faut que la stratégie fasse du sens aussi. Ouais. Dernier moment marquant, ben, c'est quand je suis devenue exécutive pour la première fois.
Son ascension chez RBC s'est faite à coup d'expériences nouvelles, d'audace, de psychologie et d'un sens politique certain.
Comment ça marche, là? À un moment donné, c'est-tu comme une mère de requin, là, puis il faut que tu fasses ta place? Parce que c'est beau, Jennifer est fine, là, à t'oriente. Mais à un moment donné,
j'imagine... Elle a pris sa retraite aussi, fait que là,
t'es seule, à un moment donné. Fait que comment tu vis avec ça, puis comment tu crées ta place? Parce que vous êtes nombreux à vouloir le poste que tu as eu, là.
Oui.
Comment tu l'as obtenu, ce poste-là? Raconte-nous exactement comment ça s'est passé.
OK. D'accord, Marie-Josée. Je crois sincèrement que dans ta vie, tu fais ton propre succès ou le contraire aussi, là. Karma, I really believe. Je te dis pas que you throw it out there in the universe et tout se passe comme tu veux, là, mais but you kind of do. Tu sais, il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu travailles pour, il faut que tu te démarques, évidemment. Il faut que tu dises ce que tu veux d'une bonne façon. Nous autres, on est une organisation qui va donner la chance aux coureurs, on remarque le talent, mais en même temps, tu dis pas « Hey, moi, je veux ça. » Ça, ça marche pas pour tout. Il faut que tu le prouves, en fait. Il faut que tu démontres ce qui est possible puis ce que tu veux, que tu es flexible, que tu es « willing to take risks » et être en dehors de ta zone de confort. Là, on remarque le succès des gens. C'est un petit peu comme ça que j'ai bâti tout mon brand. Là. Mais donc, j'ai commencé quand j'étais à Toronto. Là, j'ai fait la gestion des risques. Après ça, les prêts spéciaux. Puis là, c'était devenu... Là, j'ai fait tous les postes puis les business possibles, en tout cas, qui me passionnaient. Puis je me suis dit, là, je suis dans une position où je peux commencer à parler de rôle exécutif. Puis je l'ai fait à ma façon, où je me démarquais, même si je n'étais pas parfaite partout, où je me démarquais, où je contribuais à quelque chose de spécial mm-hmm. partout où j'allais. Donc là, je me suis dit, ben là, c'est important de continuer la conversation de carrière. What's next? Tu sais, j'ai eu toutes ces expériences de vie et de carrière et j'aimerais ça pouvoir continuer à grandir. Alors, voici ce que j'aimerais faire comme prochain rôle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai ce que j'ai besoin pour le faire, pour compétitionner? Fait que ça, c'est la première question.
À toi-même.
À moi-même et évidemment à quelques personnes que je pensais, en tout cas, qui pourraient m'aider, dont mon boss à ce moment-là. Tu sais, il faut naviguer dans la politique un petit peu, là.
Ouais.
Mais il faut commencer les conversations. Puis on m'a dit, Nadine, tu sais, si tu veux être exécutive, il faut que tu sois complètement mobile. Je dis, OK, là, on vient de rebâtir notre vie à Toronto. Je sais pas, là. OK, bon, ben, j'en ai parlé avec Keith. Je dis, garde, là, si on veut, je dis on parce que vraiment, honnêtement, la carrière que j'ai bâtie, ça se bâtit avec mon conjoint. C'est impossible de faire ça tout seul, là. Si on veut que je continue à grandir, ben, il faut être mobile. Fait que ça peut être n'importe où. On peut être à Calgary, on peut être Halifax, on pourrait être, you know, wherever the job takes us. Right? Tu dis pas non à ton premier rôle d'exécutif, tu sais. Et puis, beaucoup de discussions plus tard, il dit, OK, ben d'accord, heureusement, j'ai un chum qui est très ouvert d'esprit. Il dit, OK, les enfants sont encore jeunes, c'est probablement le bon moment si on avait déménagé. Fait que là, j'ai commencé à avoir des conversations avec Martin, qui était le président à ce moment-là, okay, ici, comme apprendre à connaître le Québec. On n'avait jamais travaillé ensemble parce que j'étais à Toronto, lui était ici, puis il se promenait aussi. Fait que, tu sais, j'ai commencé à parler avec Martin, j'ai commencé à parler aux autres présidents à travers le pays, j'ai commencé à parler un petit peu à RH, puis j'ai dit, bien là, vous avez une personne bilingue, complètement bilingue, je sais qu'on ne peut pas choisir, mais si jamais il y avait un poste qui s'ouvrait au Québec, ben je serais vraiment très, très open, puis ma famille est là, et on est quand même une entreprise qui travaille fort, mais on recherche quand même un équilibre familial pour les gens quand c'est possible. Alors, je me dis, I'm going to throw it out there. Tu sais, oui, on va être mobile partout, mais honnêtement, si j'avais une préférence, ça serait vraiment le Québec. J'aimerais se retourner au Québec. Ça va être plus facile pour la famille, puis en même temps, c'est un super marché, je veux le développer, tout ça. Plusieurs années, 2 ans là, de conversation, 2 ans, puis un non. J'ai eu un poste d'exécutif qui m'a été offert ailleurs. J'ai osé dire non. Et j'ai eu tellement peur, là, je me dis, oh my God, ils ne m'offreront plus jamais rien. Mais je dis, non, ça n'a pas d'allure, c'est pas bon pour nous. Fait que j'ai dit non. J'ai dit, je pense que je vais attendre pour une opportunité qui fonctionne vraiment pour nous. Win-win, là. Mm-hmm. Pour nous et pour RBC, les deux, là, toujours. Et à ce moment-là, Martin m'avait offert quelque chose ici au Québec. Puis j'ai dit, mais Martin, je ne vais pas déménager pour la même job. Fait que j'avais aussi dit non à Martin. Je dis, oh my God, là, il faut que j'arrête, là, parce que là, je le sais. Je vais
tu
être
brûles
là comme
tes chambres, genre.
Oui, je brûle mes chambres. Mais il y a quelque chose qui me disait que, juste en apprenant à connaître la dynamique du Québec, je savais qu'il y avait un besoin pour du changement. Mm-hmm. Puis ce qui me partageait aussi, puis je me dis, mais c'est moi la personne qui peut le faire, ça. Comme, à un moment donné, il va me faire confiance, puis c'est lui qui va me recommander au board, puis ça va fonctionner. Je me dis, throw it out there, là. Et puis c'est exactement ça qui est arrivé. Fait que je suis revenue au Québec, puis je me dis, mais si je reviens au Québec, moi, je sais qu'un président, ça, en général, on ne fait pas ces rôles-là pendant 20 ans, là. Oui. Pour avoir d'autres opportunités. Fait que je me dis, si je fais bien ma job à l'entreprise, je peux probablement compétitionner pour le rôle de président. Parce qu'ils ne vont pas te redéménager encore après, à moins que tu ne sois pas le bon fit. Fait que je me dis, ben j'ai un an et demi, 2 ans max pour m'assurer d'être le choix du prochain président, du prochain exécutif ici au Québec. Alors voilà.
Puis qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as juste attendu ou tu as...
Non, j'ai pas attendu.
Qu'est-ce que tu faisais?
Impossible.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Ben, quand tu regardes les dynamiques du Québec, là, ouais. Tu sais, chaque province est différente. Tout est unique partout à travers le pays. Mais s'il y a quelque chose qui définit vraiment le Québec, c'est vraiment une province qui est entrepreneuriale. Mm-hmm. Et donc, ça tombe bien. J'adore l'entrepreneurship. Et puis, je venais de rentrer au Québec, première exécutive. Je connaissais personne. Mais j'étais dans un rôle où je pouvais connaître beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, j'avais l'opportunité de vraiment démontrer comment est-ce que je peux vraiment amener la business ailleurs. Puis oui, évidemment, c'est pas juste une business d'entrepreneur, mais tu sais, si tu vas à Ottawa, c'est plus gouvernemental. Tu sais, il y a des choses à travailler qui sont uniques au Québec où on peut avoir un impact majeur avec nos clients. Puis je me suis dit, bien, moi, j'ai travaillé plusieurs années à l'entreprise, au commercial. J'ai fait la gestion des risques, j'ai fait les prêts spéciaux. Mais plus que ça, je suis vraiment passionnée de la business. Fait que je me suis dit, bien, give it your all, là, 200%, là, comme quoi que dans un an, 2 ans, si l'opportunité arrivait, there's no other candidate. Moi, j'ai jamais eu à piler sur personne, mais c'est de t'assurer qu'il n'y a pas de question sur qui serait le bon fit. Puis si je ne suis pas le bon fit, je ne suis pas le bon fit. Mais pour moi, c'est de travailler pendant 2 ans là, pour m'assurer d'être le bon fit pour l'obtenir.
J'ai l'impression que tu n'es pas habité par le sentiment d'imposteur. Est-ce que je me trompe?
Pas quand je le travaille, mais par contre, quand j'arrive, oui. Absolument. Okay. Quand j'arrive dans un nouveau rôle, absolument.
C'est ça. Quand tu es arrivé dans ce rôle-là, comment tu t'es senti? C'était quoi ton état d'esprit?
Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Oh my God, c'est quoi qui se passe? Fait que ça, c'est les premières questions que je me suis posées. Puis, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je vais être capable d'avoir l'impact puis c'est d'amener la province ailleurs, puis vraiment continuer à lever la barre, puis de continuer à bâtir ce qui a été commencé. À chaque fois que je commence une nouvelle job, je me pose toujours la question. J'ai toujours ce doute en moi, mais le doute, en fait, pour moi, là, puis j'en avais parlé dans une autre entrevue, là, c'est péjoratif, le doute, hein, mais pour moi, ça me donne justement une raison d'être, puis de le contrer. Ce doute-là, là, c'est bon, là. Pourquoi j'ai des doutes sur moi, là? Puis c'est quoi que je dois faire pour justement gagner confiance tout en restant humble? Fait que je me suis roulé les manches, j'ai écouté. I leaned into my leadership team, qui était très expérimenté pour m'aider à faire ce que j'avais accompli. Puis après, une fois qu'on était ensemble, qu'il y avait la confiance, on a commencé à continuer à bâtir la business, là. C'est tout le temps, c'est 25 ans de carrière, 25 ans d'entrevue.
Le test.
Le test, c'est constant, là. Constant. Ouais. Puis quand on me demande des conseils de carrière, je dis, désolée, là, mais c'est la vérité, j'y crois sincèrement. You're only as good as your last job.
Mm-hmm.
It's the way it is. It's true. I mean, it's okay if you fail. You can do something else. C'est correct, là. Mais, but the reality is, les gens vont se rappeler de ton dernier impact en espérant que ce soit positif.
Tu as touché à ça tout à l'heure, ta fille qui est autiste, ton garçon qui est jeune.
Oui.
Parce que là, tu étais à Toronto, dans tous ces postes-là. Ton chum, soutien incroyable. Comment tu t'organises? Comment tu concilies tout ça? Comment tu trouves la paix dans tout ça?
Honnêtement, une des meilleures choses qu'on a faites, c'est de revenir au Québec parce que je me tapais la tête contre le mur. Je suis pas une maman nerveuse, là, maman poule. Je le suis pas, là. Je sais pas du tout. J'adore mes enfants, mais je suis très comme, OK, t'es capable, là. T'as pas fait mal. Vas-y, continue. Un petit peu comme mes parents, t'es capable.
Oui, c'est ça.
Mais s'il y a une chose que je savais au plus profond de moi, là, c'est que ma fille, elle apprenait pas comme les autres enfants dès l'âge de 2 ans. Puis, je me rappellerai toujours, là, elle était au Montessori à Toronto. Elle pleurait, là, sa vie à 2 ans, là, qu'il fallait qu'elle efface des lettres. Comme, parce que la professeure lui a demandé d'effacer des lettres. J'ai dit, mais voyons, non, c'est comme ça lui a pas demandé méchamment, là, mais des choses que je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme elle a pas l'air de s'intégrer comme les autres. Comme tu lui demandais d'expliquer quelque chose à 6 ans, 7 ans, 8 ans, elle était incapable de le faire aussi, là. Elle faisait pas du eye contact. Tu sais, il y avait plein de choses que tu vois au fur et à mesure. Puis j'arrêtais pas de dire au professeur, comme, je pense qu'elle a besoin d'autres choses pour pouvoir apprendre puis vraiment mûrir. Puis ça allait pas bien à l'école, là. C'était pas partout dedans, là. En tout cas, tu voyais sa confiance dépérir. Et l'anxiété monter. Et non, tout va bien. Ça va se développer avec le temps. J'ai tout eu comme réponse, là. Puis j'ai essayé de la tester à Toronto et elle voulait pas, comme ça m'a dit les enfants, là, s'ils veulent pas faire les tests, ils veulent pas, là, les tests psycho-éducatifs. Fait que ça a pas marché. Fait qu'on savait pas. On savait qu'il y avait des défis. Fait qu'on faisait des tuteurs. Mais les tuteurs, ça aide sur le moment, là. Ça aide pas les autres défis qu'on avait. Quand on est arrivé au Québec, on a encore essayé un test. Elle avait vraiment de la misère, là. C'était un gros changement. C'était très difficile. On a vécu des moments très difficiles ensemble. D'ailleurs, on a eu des grosses peurs avec Amélie quand on est arrivé ici. Puis, le premier test psycho-éducatif, she didn't go through it. Elle voulait rien savoir. Deuxième test, donc ça, c'était 7 ans, 8 ans. À 10 ans, elle a tout fait. Puis là, tout est sorti clair et net. Autisme, voici comment elle doit être approchée en termes d'éducation. Ça a changé nos vies, là. Psychologue, psychiatre, accompagnement à l'école qui a été extraordinaire pour justement l'aider pour qu'elle puisse s'intégrer. Fait qu'elle est passée de dernière de classe à première de classe à une fille qui, tu sais, elle sera jamais la social butterfly, là, c'est pas ça, mais qui veut être heureuse. Qui veut être heureuse, puis que la différence, c'est bien. C'est c'est pas un fléau. Ouais. Parce que quand t'as 7 ans, 8 ans, là, ou même comme 10 ans, là, t'sais, comme pourquoi tout le monde a l'air de bien aller, puis moi, il n'y a rien qui marche, là. C'est très déstabilisant pour un enfant. Puis quand tu peux pas mettre le doigt dessus, là, ça les impacte énormément.
Toute une expérience pour toi.
Ouais.
Puis ton conjoint.
Oui. Mon conjoint, on l'a tous vécu difficilement, là, puis on le vit encore. Il y a encore des hauts et des bas, évidemment. Je me dis, on fait tout ce qu'on peut pour l'entourer, pour qu'elle soit heureuse. Puis une bonne chose avec Amélie, c'est qu'elle veut vraiment être heureuse. Elle veut travailler sur elle-même. Fait quand elle a des moments de désespoir complet ou autre, là, ben, elle est bien entourée là, pour pouvoir trouver des solutions. Mais c'est pas évident. C'est quelque chose qui va la suivre toute sa vie. On vit dans un monde où il faut que tu sois faut que tu t'intègres. Elle s'intègre pas. Moi, je me suis adaptée. Elle, c'est elle. Puis c'est correct. Mais c'est pas facile de vivre une vie comme ça, là. Faut que tu choisisses tes... Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie pour justement te sentir comme tu fites. Donc, mais c'est une fille incroyable, brillante, et elle va accomplir des grandes choses. Mais c'est sûr, it's on her mind a lot quand ça va moins bien. Puis, mais elle est bien entourée. Mm. On a ce qu'il faut.
Oui.
Oui. Ouais.
Merci.
Ouais.
Puis, c'est quoi ton prochain... ta prochaine étape, Nadine?
I don't know, you tell me! J'ai cette soif d'apprentissage, c'est clair, là, sinon je serais pas ici. Cette soif de me challenger, d'apprendre plus, de voir à... c'est quoi mes limites, comme how much further can I go, tu sais, comme, puis je parle pas seulement de rôle, là, puis de job, là, je parle de dans la vie. Fait que moi, tant que je peux grandir, c'est ça la croissance. Là, c'est sûr que dans le rôle dans lequel j'ai, je suis en constante croissance et toujours de quoi apprendre et grandir. Et là, avec l'acquisition potentielle d'HSBC, ça va être un autre gros apprentissage. Oui, business, mais humain. Hein? C'est majeur comme acquisition.
Oui.
C'est majeur comme transformation humaine aussi là, pour les clients et les employés qui vont, du jour au lendemain, joindre RBC si c'est approuvé. Fait que donc, c'est tu sais, ça me garde, on va dire, ça nous garde très occupés tous. Et notre plus grosse inquiétude, c'est de s'assurer que nos collègues arrivent heureux et les clients se sentent bien. Mais tu sais, c'est du jour au lendemain, là, tu es ailleurs, là. Mm. Fait que ça va être assez, assez marquant, je pense, comme apprentissage. Fait que toute la planification qu'on va faire, elle est super importante. Mais à la fin de la journée, c'est l'humain. C'est comment est-ce qu'on va se comporter dans le non-dit puis dans ce qu'on ne sait pas, là. Qui va faire une différence. Puis c'est quand même 60 000 clients au Québec de plus. C'est à peu près 300 personnes. Fait qu'on veut bien les intégrer. On veut qu'ils soient heureux, ils et elles, et qu'on fasse une belle équipe. Mais n'importe qui a vécu une acquisition, ça se passe jamais exactement comme on le planifie. Fait que c'est ce que je demande à mes équipes. Soyez patients, open, ouverts et prêts à être flexibles.
Une belle aventure qui t'attend.
Oui, oui.
On va
ça me garde motivée.
Oui.
Puis on verra pour les prochaines choses. Oui.
OK. Alors, on va terminer avec le questionnaire Brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
Hey boy! Ça dépend du moment, mais j'aime beaucoup rire. Alors, j'aime beaucoup regarder des petits shows d'humour, dire des choses comme... J'adore le sarcasme. J'adore le sarcasme. Alors, moi, là, dès que je ris, là, ça me donne de l'énergie... T'sais, si je sens que je vais avoir une journée peut-être un petit peu plus difficile, qu'est-ce que je peux rajouter dans cette journée-là qui va me rendre heureuse, qui va me faire sourire? Ça peut être un appel, ça peut être un meeting, ça peut être un suivi. Ça peut prendre 5 minutes. C'est pas obligé d'être très, très long. Mais des choses qui vont me donner de l'énergie pour peut-être prendre des décisions plus difficiles par la suite puis être confiante à pourquoi je fais ce que je fais là. Ouais.
Puis c'est quoi être brave pour toi?
On n'a pas beaucoup parlé, mais je ne t'ai pas donné d'exemple concret là-dessus, mais être brave, pour moi, c'est de faire du speak-up. Pas que j'ai peur de faire du speak-up aujourd'hui, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de respect quand des gens de la communauté, des employés viennent me dire « Nadine, là, faut que je te dise quelque chose. » Puis c'est pas nécessairement positif. Là. Ça prend beaucoup de courage et j'ai beaucoup de respect pour ça. Pourquoi? Parce que moi, jeune dans ma carrière, j'ai justement, quand je venais juste de déménager à Toronto, j'étais dans une situation vraiment difficile avec un collègue en planification financière à ce moment-là à qui je ne faisais pas confiance. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis je trouvais qu'il n'était pas correct, qu'il n'avait pas nos valeurs. Puis il faisait des affaires vraiment un peu croches. Parce que j'avais l'impression, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Comment est-ce qu'il fait ça? Puis ça. Puis je ne voulais pas comme... Tu sais, être la fille qui va... Hein, comme j'avais peur pour ma job, j'avais venu d'arriver. En tout cas, je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Fait que j'ai pas fait du speak-up tout de suite. J'ai fait du speak-up peut-être 3-4 semaines après pour ensuite réaliser qu'il faisait des affaires effectivement pas correctes. En fait, ma boss à ce moment-là m'avait passé une entrevue avec cette personne-là. Puis elle pensait que c'était moi. T'sais, en tout cas, c'était traumatisant comme expérience. Là. Et je me suis dit, plus jamais je vais rester silencieuse sur des choses qui n'ont... où on ne suit pas nos valeurs. on travaille dans la vie. Là. Il faut trouver une façon de le faire à notre propre façon, mais you have to speak up. Because sinon, des fois, on le sait pas, là. Ce gars-là, il était croche, on le savait pas, là. Mais il a fallu, oui, comme, tu sais, quelque chose, là. Tu veux pas accuser n'importe qui comme n'importe comment, mais c'est quelque chose qui est pas correct, là, il faut en parler. Il faut ouvrir la porte.
Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
Souvent, je me dis, OK, ça dépend du moment. Si c'est vraiment un moment excitant, tout ça, là, go, t'es capable, c'est plus, hey, ouais, t'es capable, là, vas-y, là, fonce, là. C'est un moment où je suis plus fatiguée mentalement, c'est plus, OK, va te coucher, là, demain, ça va aller mieux.
Ouais. Puis, à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
Ce moment-là, j'aurais dû parler tout de suite, parce qu'on a perdu 6 semaines. J'ai été dans une situation, on m'a mis dans une situation, dans une entrevue là, avec Corporate Security. Écoute, c'était terrible. J'aurais pu éviter ça en se faisant du speak-up. Mais j'avais peur. Pour les conséquences.
Oui.
Ouais.
Puis, quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
Oh, mon Dieu. Toutes des gens qui, je dirais, qui ont bâti from the ground up. J'ai beaucoup d'admiration. C'est pour ça que j'adore les entrepreneurs aussi, là, mais j'ai beaucoup d'admiration pour l'effort, for the small person that can, là, comme ça tellement, pour moi, c'est tellement important d'arriver de toutes sortes de background puis d'avoir du succès. Tu sais, j'ai toujours été super inspirée par Maya Angelou, comme son message, tout ce qu'elle a fait pour accomplir ce qu'elle a accompli dans sa vie, là, quand c'était pas aussi accepté, une femme noire, que autant d'opinions. Helen Keller aussi, je lisais beaucoup sur Helen Keller dans le temps. Puis là, récemment, j'ai eu la chance de rencontrer, je sais pas si vous la connaissez, mais Martin Rothblatt, qui est maintenant une PhD, là, qui est une ingénieure. Et Google Martin Rothblatt. Et sa vie, là, ce qu'elle a vécu. Et maintenant, cette femme-là, là, elle a inventé un médicament, pas une scientifique, là. Elle a inventé un médicament pour sortir les enfants du cancer. Mais elle s'est toute fait sa recherche pour ce médicament-là. Je me souviens plus du nom, a été accepté. Elle vient tout récemment de trouver une façon de bâtir ou de construire un poumon, artificiel, oui. C'est pas une docteure, là, mais she was on a mission to do that. Elle s'est fait dire à un moment donné qu'elle voulait absolument que les hélicoptères soient à hydrogène vert. Elle s'est fait dire impossible, impossible, ça n'arrivera jamais. Guess what? Elle a trouvé une façon avec ses recherches et tout ça. Moi, elle a des gens comme ça, là, ça me fascine. Ça me fascine. C'est pas une scientifique, mais elle est devenue scientifique pour sauver des vies, pour avoir un impact, une autre raison d'être. Puis j'apprends tous les jours, en fait. Fait qu'elle, je viens juste de la rencontrer il y a un mois à peu près. Là. Son histoire de vie est extraordinaire, puis son impact est mondial là, maintenant. Là. Des gens comme... juste hier aussi, quelqu'un d'autre qui m'a inspirée. Hier, j'étais avec Patrick Pichette, qui a fondé Innovia. Fait que quelqu'un comme ça là, qui est arrivé, là, qui a réinventé Google, Bell, tout ça, puis qui est vraiment down to earth, là, puis qui ne voulait même pas aller à l'université, là, comme tantôt, là, puis s'est fait forcer d'aller faire son MBA, il l'a fait. Mais tu regardes son cheminement aujourd'hui, puis ce qu'il a accompli, là, lui s'est dit à un moment donné, il dit, bon, on n'a pas de fonds majeurs au Canada, on devrait en avoir, je vais inventer. Tu sais, c'est des gens comme nous, là. Ils accomplissent des grandes, grandes choses. Fait que des gens comme ça, ça m'inspire.
Puis, qu'as-tu à dire aux jeunes pour les encourager?
Bon, il y aurait deux volets. Je vais commencer par dire, un, n'ayez pas peur d'apprendre puis de prendre des risques, sortir de votre zone de confort. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que c'est différent pour tout le monde, tu m'as posé la question. Investissez dans votre carrière et n'ayez pas peur de demander et vraiment d'aller de l'avant. Mais je dirais aussi... C'est important de se rouler les manches puis de passer du temps à comprendre, à connaître c'est qui son employeur avant de vouloir passer à autre chose. Fait que il y a l'aspect vraiment drive, développement, carrière, talent, super, vas-y, go, go, go. Mais sauter de job en job puis de d'entreprise en entreprise, c'est pas nécessairement bon pour ta carrière. Fait que trouve un équilibre où tu roules tes manches. Tu apprends le plus vite possible. Oui, ça se fait parce que tu as la capacité, c'est génial. Mais roule tes manches pour aussi comprendre ton employeur puis contribuer différemment parce que tu vas grandir. Parce que souvent, j'étais jeune aussi, là, on veut tous accomplir beaucoup, là, mais tu ne deviens pas exécutif du jour au lendemain. Puis on veut que nos gens aient du succès. On accélère beaucoup plus vite aujourd'hui. Mais il faut que tu connaisses un petit peu l'entreprise avec laquelle tu travailles si tu veux avoir du succès. Fait que soyez prêt à contribuer à votre propre façon. passez pas trop vite à autre chose, parce que c'est là qu'on va chercher plutôt souvent les golden nuggets. Là. Quand c'est plus difficile, là, c'est « you should stick it out ».
Ça merci. Mes conseils. Merci pour tes conseils. Merci pour cette entrevue, Nadine. Ouais. Je suis tellement contente de mieux te connaître encore. Je suis certaine que tout le monde dans la salle également. Merci.
Merci. Merci, Marie-Josée.
Nadine a tellement bien fait de combattre sa gêne, d'oser s'asseoir avec moi et de nous confier son histoire. On a bien compris l'impact de vivre dans des pays où peu de gens voulaient aller. L'importance pour elle de grandir et d'avoir de l'impact, et sa grande capacité d'adaptation et d'intégration. Et son ouverture à nous parler des défis de sa fille nous a montré un autre volet de son monde, vraiment pas toujours facile, et qui nous rappelle que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Merci d'avoir été à l'écoute, chère Brave, et à très bientôt.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.